comme un malaise depuis qu'a commencé la conférence nationale des territoires ce matin à Paris. Le Premier ministre doit se sentir bien seul. L'association des régions, des départements et une partie des maires a décidé de boycotter l'événement. Analyse à suivre de Stéphane Robert. Le groupe Lagardère, en plein redéploiement pour se recentrer sur l'édition, poursuit son désengagement progressif du secteur des médias. Il a annoncé aujourd'hui la vente de son pôle santé. Explication dans ce journal de Camille Magnard. Et puis au deuxième jour du sommet de l'OTAN, Donald Trump a une nouvelle fois réclamé ce matin un meilleur partage du fardeau et réitéré ses critiques contre l'Alliance Atlantique, provoquant aussitôt la tenue d'une réunion d'urgence entre quelques pays partenaires. Alors coup de bluff ou pas, nous nous demanderons ce que les États-Unis, en dépit des accusations répétées de Donald Trump, tirent comme profit de l'OTAN. Et puis à 12h45, ce sera la grande table d'été au menu aujourd'hui, Maëlys.
On va parler de licorne à l'occasion de l'exposition que leur consacre le musée Cluny, qui réouvre ses portes samedi prochain, avant de faire le portrait de l'artiste Claude Ruteau.
Rendez-vous tout à l'heure. La conférence nationale des territoires se tient donc depuis ce matin à Paris. Ce rendez-vous semestriel est le troisième depuis le début du quinquennat, avec une particularité donc. Cette fois-ci, le Premier ministre Édouard Philippe aura eu la lourde tâche de s'exprimer devant une salle quasiment vide. Et pour cause, trois associations d'élus ont décidé de boycotter l'événement, les régions, les départements et les maires de France, au point qu'on se demande dès lors qui il peut bien rester. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors le malaise semble se concentrer à la fois autour de la hausse des dépenses de fonctionnement des plus grandes collectivités, mais aussi une espèce de jeu de domino fiscal, en somme, autour de la suppression notamment de la taxe d'habitation.
Oui, en l'espace d'un an, les relations entre l'exécutif et les collectivités se sont considérablement dégradées. Et ce n'est pas vraiment la demande du gouvernement faite aux 320 plus grandes collectivités de réaliser 13 milliards d'euros d'économies sur leurs dépenses de fonctionnement qui pose problème. Parce que ces économies qu'on nous réclame, explique le président des départements de France, Dominique Bussereau, sont une limitation de nos dépenses de fonctionnement et 90% des collectivités les ont déjà réalisé. Non, ce qui pose problème aux départements qui ont donc décidé de boycotter cette conférence, c'est d'une part que l'État a brutalement supprimé une aide de 750 millions d'euros qu'il leur avait promis pour les aider à payer le RSA et l'accueil des mineurs isolés, qu'il va aussi leur enlever la part qu'ils touchaient de la taxe sur le foncier bâti, et ça afin de la transférer aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation promise par Emmanuel Macron. Et voilà, reprend Dominique Bussereau, on déshabille Pierre pour rhabiller Paul. Et au final, tout le monde est perdant, les départements qui perdent la maîtrise du taux de la taxe foncière et les communes également qui ne savent toujours pas comment sera compensée intégralement la taxe d'habitation. Quant aux régions, l'origine de la colère est qu'on leur supprime la gestion de l'apprentissage et la taxe qui va avec, 1,6 milliard d'euros. Le résultat, c'est qu'en l'espace d'un an, un jeu du chat et de la souris semble s'être installé. Entre le gouvernement qui paraît chercher des économies à tout prix, sans le dire ouvertement, et des collectivités qui, à chaque décision prise, se demandent où est l'entourloupe. Aujourd'hui, un climat de défiance est installé. Une défiance alimentée par d'autres vexations, comme la forte diminution des contrats aidés financés par l'État, par les fermetures de classes qui se poursuivent dans les départements les plus ruraux, et puis surtout, par la limitation à 80 km/h sur les routes.
Merci Stéphane Robert. 60 millions d'euros, c'est la valeur estimée de la vente du pôle e-santé du groupe Lagardère, lequel poursuit sa stratégie de désengagement des médias. Le groupe a annoncé aujourd'hui vouloir se débarrasser du célèbre site d'information santé Doctissimo, mais aussi de la plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne Mon Docteur. Le premier fera l'objet de négociations exclusives avec TF1 et le second devrait être acheté par son principal concurrent Doctolib. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Après les magazines, le groupe Lagardère n'a donc visiblement pas l'intention de stopper la grande braderie qu'il a lancée depuis quelques mois déjà sur plusieurs de ses actifs, quitte à y perdre de l'argent.
Oui, clairement, parce que c'est une revente à perte que fait là le groupe Lagardère. Doctissimo et Doctolib et Mon Docteur sont cédés à une valeur estimée à 60 millions d'euros les deux, alors que Doctissimo à lui seul avait été acheté en 2008 70 millions. Mais Lagardère n'est pas en situation de négocier, tant le groupe semble pressé de se débarrasser de ces médias. À la fin, il ne devrait plus rester que Paris Match, le JDD et Europe 1. On brade donc Doctissimo et Mon Docteur, qui symbolisaient ces dernières années la stratégie ambitieuse du groupe dans les contenus numériques. Doctissimo, c'est un incroyable aspirateur à clics, 40 millions de visites par mois sur ses forums de discussion et ses pages web consacrées à la santé, à l'alimentation et à la famille. C'est cela justement qui attire désormais TF1. Le groupe vient vient également de racheter les sites auféminin.com et marmiton.org. La ménagère de moins de 50 ans regarde de moins en moins la télévision. C'est donc sur Internet qu'on va la chercher. Et puis l'autre bonne opération incontestable, elle est donc pour Doctolib qui engloutit son concurrent direct, mondocteur.fr. Sur ce marché très porteur des applications de prise de rendez-vous médicaux, avec ce rachat, Doctolib devient le leader européen sur ce créneau de l'ubérisation du secrétariat médical, avec 600 salariés et 400 autres embauches prévues. Sous 2 ans, les investisseurs se pressent à chaque ouverture de capital de Doctolib. C'est sur cette marge de progression alléchante qu'avait misé Lagardère il y a quelques années. Mais là aussi, le groupe est contraint aujourd'hui de voir un concurrent en bénéficier à sa place.
Merci Camille Magnard. Les alliés de l'OTAN réussiront-ils aujourd'hui à calmer l'atmosphère électrique de la veille? C'est vrai qu'à peine arrivé à Bruxelles, Donald Trump n'aura pas mis bien longtemps avant de faire montre de son talent certain pour les déclarations fracassantes. Il s'en est pris de manière véhémente hier à l'Allemagne et plus largement, le président américain s'est une nouvelle fois attaqué à ses alliés qualifiés de mauvais payeurs. Mais est-ce là la véritable raison de la colère du président américain? Car même si Donald Trump a sans doute raison de reprocher à l'Europe des dépenses militaires trop faible, ces rappels à l'ordre stratégique se mêlent en réalité à des pressions commerciales. En clair, au chantage sécuritaire d'un côté répond le carnet de commandes militaro-industriel de l'autre. Ou quand Donald Trump réagit plus en ex-homme d'affaires qu'en président des États-Unis. En clair, pour mesurer ce que les États-Unis tirent comme profit de l'Alliance Atlantique, il ne faudrait pas se contenter d'un bilan purement comptable. Alors selon Jenny Raflick, maîtresse de conférence en histoire contemporaine des relations internationales à l'université de Cergy-Pontoise, même si les États-Unis ont dépensé, c'est vrai, près de 700 milliards de dollars pour l'OTAN en 2017, ils ont obtenu toutefois d'autres compensations et en particulier sur le plan diplomatique. Elle l'explique à Luca Scaltretti.
C'est difficile de mettre un chiffre. Il y a un intérêt en termes de puissance, un intérêt en termes d'influence, d'influence politique, diplomatique, économique. Il y a des intérêts nationaux pour les États-Unis qui ne peuvent pas se chiffrer en dollars, qui sont plutôt un intérêt géopolitique, stratégique, beaucoup plus global. Les États-Unis ont un intérêt à la fois en termes d'image, de politique, de puissance, d'influence, à garder un pied en Europe. Une Europe élargie, hein, puisque la Turquie est dans l'OTAN aussi, il faut le rappeler. Donc un petit pied au Moyen-Orient aussi déjà. Le deuxième point, c'est que c'est pas très nouveau cette demande américaine. Ça fait très longtemps que les présidents américains, tous, j'aurais même tendance à dire depuis Eisenhower, demandent sans cesse aux Européens de payer plus, d'investir plus dans la défense de l'Europe. Et finalement, Donald Trump ne fait que reprendre un discours qui avait été celui d'Obama avant, qui avait été celui de George Bush avant, et qui est celui des présidents américains, globalement, depuis la guerre froide.
Alors face aux appels répétés justement de Donald Trump à ses alliés de l'OTAN de contribuer davantage, il en est une qui fait figure de bon élève, c'est Theresa May, en respectant l'objectif de consacrer 2% de son PIB à la défense de l'Alliance et en annonçant par ailleurs le déploiement de troupes supplémentaires en Afghanistan. La première ministre britannique coche aux yeux de Donald Trump toutes les cases. Et pourtant, cette belle entente affichée risque bien d'être quelque peu écornée dès lors que Donald Trump entamera aujourd'hui sa première visite officielle au Royaume-Uni. Des manifestants ont déjà prévu de se masser ce soir avec le mot d'ordre de faire du bruit près de la résidence de l'ambassadeur américain où le couple présidentiel a prévu de passer sa première nuit et le point d'orgue de ces protestations est prévu demain à Trafalgar Square. C'est une correspondance à Londres d'Otsoufi.
L'enjeu de la visite est avant tout économique. Dans un contexte de sortie prochaine de l'Union européenne, le Royaume-Uni espère établir une relation commerciale étroite avec les États-Unis. Mais les manifestants, eux, ont d'autres préoccupations en tête. Ils expliquent vouloir dénoncer sa politique migratoire et ses propos racistes et sexistes. Et pour ce faire, ils organisent différentes manifestations. Ils ont appelé ça un carnaval de résistance. Ça commence ce soir à la résidence de l'ambassadeur américain dans Regent's Park, où Donald et Melania Trump vont passer la nuit. Ils ont prévu d'apporter des casseroles, des tambours, avec pour objectif de faire un maximum de bruit. Demain, des marches sont organisées un peu partout dans le pays, notamment à Londres, où l'on devrait voir, ou plutôt entendre, une centaine de chanteurs d'opéra donner de la voix contre Trump. Il y aura aussi des happenings de compagnies de théâtre, un AK géant et un ballon gonflable de 6 mètres qui survolera la capitale. Un ballon représentant le président américain sous la forme d'un bébé en colère, avec une couche culotte, la peau orange, des mains minuscules, tenant un téléphone pour symboliser, disent les activistes, les messages incessants qu'il poste sur Twitter. Les militants à l'origine de cette idée expliquent qu'il s'agit d'attaquer Donald Trump sur son terrain le plus sensible, son ego fragile.
Et quoi qu'il en soit, la venue du chef de la Maison-Blanche intervient au cours d'une semaine agitée donc pour Theresa May. Celle-ci doit présenter aujourd'hui son plan pour le Brexit, un livre blanc qui prévoit notamment une zone de libre-échange des biens avec l'UE, de quoi susciter la colère des plus farouches partisans de la rupture avec Bruxelles, qui estime que ce plan n'a de Brexit au fond que le nom, mais que pour le reste, il constitue une véritable trahison pour les électeurs qui se sont prononcés en faveur du divorce. Enfin, last but not least, pour ne rien arranger, l'espoir que les Three Lions puissent éclipser toutes ces turbulences est définitivement évanoui hier soir après que l'Angleterre s'est faite éliminer en demi-finale de la Coupe du Monde, 2-1, par la Croatie, ou quand le sport se transforme parfois en prolongation cynique de la politique. La question migratoire n'aura sans doute jamais été autant inscrite à l'agenda des démocraties européennes que ces dernières semaines, parce que la crise politique liée au flux de migrants envenime les relations entre États membres et fragilise les exécutifs nationaux. Un sommet présenté comme décisif s'était tenu à Bruxelles il y a tout juste 15 jours, et aujourd'hui encore, les ministres de l'Intérieur des 28 doivent se réunir en Autriche pour plancher sur de nouveaux projets visant toujours à empêcher les arrivées sur les côtes européennes et préciser aussi l'idée encore floue mais déjà controversée de plateformes de débarquement en Afrique des migrants secourus en Méditerranée. En Allemagne, la justice a rendu aujourd'hui un arrêt très attendu sur l'héritage numérique qui comprenait l'accès aux données privées des comptes Facebook. L'affaire opposait le géant américain aux parents d'une adolescente décédée, lesquels avaient voulu récupérer en vain les contenus et conversations de leur fille sur le réseau social afin de mieux comprendre les circonstances de sa mort. David Philippot nous appelle de Berlin.
Le juge suprême a donc écarté l'argumentation de Facebook qui disait vouloir protéger le secret de la correspondance privée. Un compte numérique est donc placé au même niveau qu'un journal intime ou qu'une lettre qui peut revenir aux proches après un décès. Le réseau social argumentait que les amis de la jeune fille n'avaient pas envie de voir révéler le contenu de leur conversation. Mais c'est donc le droit de savoir des parents qui a prévalu. 6 ans après la mort de leur fille, ils se posent toujours la question de savoir si l'adolescente s'est suicidée et ils espèrent, avec l'accès à son compte, trouver des réponses. Ce couple de Berlinois a son mot de passe, mais son compte était en quelque sorte gelé par le réseau social. Cette décision fait autorité et l'entreprise américaine va devoir s'incliner. Il y a aussi un intérêt pécuniaire dans cette affaire. La famille souhaite écarter les demandes de dommages et intérêts du conducteur de métro qui est susceptible d'exiger réparation si la jeune fille s'était délibérément jetée sous sa rame.
Et puis s'agissant toujours de Facebook, on notera que l'organisme britannique chargé de faire respecter la loi sur la protection des données personnelles des utilisateurs a annoncé hier son intention d'infliger une amende de 565 000 euros à la société de Mark Zuckerberg. Le réseau social est sous le coup de plusieurs enquêtes concernant le détournement des données de 87 millions d'utilisateurs par Cambridge Analytica. Alors cette amende d'un peu plus d'un demi-million d'euros est le maximum autorisé par la loi britannique et elle ne devrait pas trop peser sur les comptes de Facebook puisqu'elle correspond à 5 minutes et demie de chiffre d'affaires. La justice allemande a autorisé aujourd'hui la remise à Madrid du chef indépendantiste catalan Carles Puigdemont pour malversation, mais a rejeté le motif plus grave de rébellion pour lequel il est inculpé en Espagne. En clair, l'extradition pour l'accusation de détournement de fonds publics est recevable, mais pas celle pour l'accusation de rébellion, ce qui signifie que la décision du tribunal porte directement un coup au chef d'accusation espagnol. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Certaines grisailles, principalement sur la moitié nord du territoire. Le soleil sera plus généreux au sud. Les températures en hausse partout par rapport à hier, de 23 à 34 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yacine Bouzard. Pour ma part, je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.